Merci Nasser. Bonjour à tous. On est légèrement en retard sur notre horaire habituel. On a des montres, prenons aussi le temps, hein, tant qu'à faire. Et donc c'est un plaisir encore ce matin d'étudier la parole de Dieu avec vous. Je remercie la technique pour le PowerPoint. Ce matin, donc, nous allons regarder ensemble 2 Corinthiens chapitre 3. Je vous encourage à le prendre en même temps que je commence cette introduction. Avant de commencer la lecture de ce texte, je vous propose un bref rappel de la situation. Alors vous avez un bref rappel de la situation à chaque fois qu'on fait une prédication sur 2 Corinthiens. Ne vous inquiétez pas, à terme, vous allez bien connaître la situation. Donc, je rappelle simplement la situation. On a Paul qui a donc fondé l'église de Corinthe. Il est parti ensuite à Éphèse. Et à Éphèse, il écrit à l'église de Corinthe une première lettre, qui n'est pas une lettre canonique, dans le sens où nous n'avons pas dans notre Nouveau Testament cette première lettre. Il écrit une lettre sur la discipline dans l'église. À la suite d'avoir écrit cette lettre, donc il envoie la lettre que nous connaissons comme étant 1 Corinthien. Il l'envoie par Timothée. Donc Timothée va à Corinthe, il est porteur de cette lettre. Et ensuite Timothée revient, mais il revient avec des mauvaises nouvelles. 1 Corinthien n'a pas produit l'effet escompté. Alors du coup, Paul va lui-même à Corinthe pour régler différents soucis, notamment des problèmes doctrinaux. Et en fait, là-bas, il subit une forte opposition. Il se fait même insulter par un membre influent de l'Église. À ce moment-là, il quitte Corinthe et il retourne à Éphèse. Pendant ce temps, il y a des judéo-chrétiens qui sont munis de lettres de recommandation de Jérusalem qui arrivent à Corinthe. Paul écrit une autre lettre, une lettre sévère qu'il envoie à Corinthe par Tite. Donc là, on voit, il a envoyé Timothée, il a envoyé Tite, enfin je veux dire, il envoie un paquet de ses collaborateurs. Et il y a des difficultés à ce moment-là à Éphèse, quand Paul y est. Alors Paul quitte Éphèse, puis Tite le rejoint et vient lui dire qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que celui qui a insulté Paul regrette son attitude. La mauvaise, c'est que les judéo-chrétiens qui sont venus de Jérusalem avec des lettres de recommandation remettent en cause l'autorité de l'apôtre. Et à ce moment-là, Paul envoie 2 Corinthiens. Et on est là dans ce contexte de difficulté. Alors aujourd'hui, quand on lit le Nouveau Testament, on a le recul nécessaire pour voir tout ce que Paul a apporté à l'Église de Christ. Mais essayons quelques instants de nous projeter à cette époque. Paul, il fonde des églises. Il les enseigne. Il les forme, il les accompagne. Et il voit ces églises déviées de la sainte doctrine qui est enseignée. Il voit des contradicteurs qui viennent et qui l'insultent, qui remettent en cause son autorité et donc son enseignement. Il voit l'église d'Éphèse qui vit des difficultés. Il voit l'église de Corinthe qui vit aussi des difficultés. Et au milieu de tout ça, comme si ce n'était pas assez, il doit défendre son statut. Parce que là, il y a un enjeu majeur. Si on lui réfute son statut d'apôtre, et donc sa rencontre avec Christ lui-même, on peut alors, sans trop de problèmes, remettre en cause les principes, certains qui sont assez novateurs, bien qu'en accord avec la parole, tous les principes qu'il enseigne, ces principes qui viennent de la révélation de Dieu, qui sont en accord avec sa parole déjà révélée, mais qui pour certains sont assez novateurs. Si on lui nie son apostolat, alors on peut nier son enseignement. Ces perturbateurs judéo-chrétiens se prennent pour des super apôtres. Ils prétendent que Paul se recommande lui-même et qu'il cherche à exploiter les Corinthiens. C'est un procédé classique de manipulation. Avant de rejeter une doctrine ou des principes, il suffit de discréditer celui qui les apporte. Si vous faites ça, alors il est extrêmement simple derrière de rejeter tout ce que la personne enseigne. Vous n'avez pas besoin de réfuter point par point tout ce que Paul dit. Il suffit de discréditer Paul. Et après, c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'on imagine à quel point il est difficile de se défendre quand on vous accuse de vous recommander vous-même? Parce que quoi que vous disiez, derrière, ça n'a pas de valeur puisque c'est vous qui le disiez. Paul est là. Il sait que ce qu'il enseigne, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de lui-même. On sait aussi qu'il ne tire aucun intérêt personnel. Au contraire, il a accepté de ne pas être à charge des Corinthiens. Et il voit des pseudo-apôtres qui cherchent à détruire l'église de Dieu, l'église qui est à Corinthe. Quelle peine, quel sentiment de colère cela peut provoquer chez lui. Vous imaginez la charge qu'il est en train de porter à ce moment-là. Et donc, il va écrire cette lettre de 2 Corinthiens, et je vous propose de prendre 2 Corinthiens. On va, si vous voulez bien, prendre juste le verset 17 du chapitre 2, puisqu'on a un petit mot de liaison qui commence le chapitre 3, et ça serait dommage de ne pas voir à quoi cela fait référence. Donc, j'ai mis le texte, mais il est petit, je m'en excuse, je ne voulais pas mettre 14 diapos avec le texte. Si vous l'avez sur votre Bible, c'est mieux de le prendre. Je l'ai pris en version Summer 2015. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Et puis après, on enchaînera avec 2 Corinthiens 3. En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec Christ, que nous annonçons la parole. En parlant ainsi, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander ? Notre lettre, c'est vous-même. Une lettre écrite dans notre cœur, que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Telle est l'assurance que nous avons par Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux encore ? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu ? On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement. Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre dans l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne l'aurait pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Ainsi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. On est ici avec une nouvelle alliance qui est supérieure à l'ancienne alliance. Paul parle du fait que, contrairement à ses pseudo-super-apôtres, lui ne cherche pas à tirer profit des Corinthiens. Il réfute là l'une des attaques qu'il reçoit. Mais sa démonstration ne va pas résider dans une attaque directe sur ses opposants, mais dans une présentation de la légitimité de son enseignement pour cette Église. Alors je le concède, il fait un petit tacle, en faisant allusion aux soi-disant lettres de recommandation que ses détracteurs avaient avec eux. Si on était dans une salle de classe avec mes élèves de collège, ils auraient fait un truc du style « po-po-po ». Là, ils sont un peu taclés. Mais en fait, il va démontrer que ce qui le rend légitime, ce n'est pas une lettre, c'est un service. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, dit Paul. Il commence avec une question rhétorique. Et la réponse, c'est bien entendu non. Non, il ne se recommande pas lui-même. Il aurait pu dire, pour se justifier, que Pierre, Jacques et Jean lui ont donné la main d'association. On voit ça en Galates chapitre 2, verset 9. Ce qui équivaut quand même à une reconnaissance publique de son ministère et une cérémonie d'envoi. Mais il ne va pas le faire. Il va se contenter de présenter comme sceau de son apostolat, l'église de Corinthe elle-même. Avec l'église de Corinthe, il a partagé quelque chose de fort. Il dit, notre lettre, c'est vous-même, une lettre écrite dans notre cœur. Et il continue en disant, cette lettre écrite sur des tablettes de chair, sur votre cœur. On est là, littéralement, dans du cœur à cœur. Quelque chose de fort, quelque chose d'authentique, un amour sincère, un amour véritable. Alors quelle douleur encore plus vive cela doit être pour Paul de voir remettre en cause par ceux avec qui il a partagé cette authenticité, son ministère et son enseignement. Le ministère est parfois fait de ces douleurs-là. Tous ceux qui ont un jour pris des responsabilités connaissent ce sentiment. Mais Paul sait que, devant Dieu, il a fait une œuvre que Dieu lui a demandé de faire. Et que nous puissions également, malgré les douloureux moments, servir fidèlement Dieu en étant fidèles à sa parole. On reconnaît un arbre à ses fruits. Notre lettre, c'est vous-même. Vous êtes la preuve que ce que nous enseignons ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et ça m'interpelle. On reconnaît un arbre à ses fruits, mais quels sont les fruits que Dieu permet par mon ministère ? Je crois sincèrement qu'il n'y a pas besoin d'être apôtre pour se poser cette question. Est-ce que je brille là où Dieu m'a placé ? Est-ce que je fais avancer son royaume ? Est-ce que j'annonce sa parole pour la révéler à ceux qui ne la connaissent pas ? On aura l'occasion de revenir sur cette question à la fin du chapitre. Toujours est-il que Paul présente là, de façon très astucieuse, à la fois une défense forte, puisque les Corinthiens sont la preuve qu'il est légitime dans son enseignement, mais aussi une réfutation, d'une doctrine qui était partagée par ses super apôtres, qui était qu'il fallait vivre comme si nous étions encore sous la loi. En effet, cette référence à des tablettes de pierre est assez évidente, vous l'avez compris. Une alliance nouvelle qui ne dépend pas de la loi et une référence directe à l'ancienne alliance. Paul parle d'une nouvelle alliance et en faisant référence à cette ancienne alliance. Alors que la nouvelle alliance, elle est communiquée par l'esprit, elle est gravée sur des tablettes de chair, que sont les cœurs, l'ancienne alliance était communiquée sur des tablettes de pierre. Alors à ce stade, il me semble important de noter deux points. Premièrement, Paul parle au verset 6 d'être serviteur d'une nouvelle alliance. Alors c'est intéressant de voir que le terme qui est utilisé, c'est « diatéké », qui est souvent traduit par « nouvelle alliance », mais c'est le même mot qui est utilisé pour « nouveau testament ». Et là, on est en train de se dire, il y a quelque chose de fort. Paul a conscience qu'en écrivant ces textes, il est en train d'écrire le Nouveau Testament. Et là, on comprend mieux les enjeux de sa lettre. Il n'est pas juste en train de reprendre quelques perturbateurs qui disent des bêtises et qu'il faudrait remettre à leur place. Il est en train de poser les bases de l'enseignement de Dieu pour son Église dans le cadre de cette nouvelle alliance par l'établissement d'un Nouveau Testament. C'est quand même pas rien. C'est quelque chose, en fait, quand on réfléchit, qui est tout simplement énorme dans le cadre de la révélation de Dieu pour son peuple. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est important, c'est que Paul n'invalide pas ce que l'ancienne alliance dit ou l'objectif de Dieu dans la révélation de la loi. Mais il pointe que l'homme, par lui-même, ne peut pas obéir parfaitement à la loi. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend coupable. Jacques, chapitre 2, verset 10, nous dit que si on est coupable envers un commandement, on est coupable envers toute la loi. Et en fait, donc nécessairement, la loi va nous mener à la mort. Le plan de Dieu au travers de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pourrait être schématisé assez rapidement. Alors on connaît tous un premier schéma. Création, chute, rédemption. Celui-là, vous l'avez entendu et il est très important. Mais on peut aussi voir quelque chose d'autre qui est moins court, je le concède, mais qui est le fait que la loi pointe le péché. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Jésus vient pour accomplir ce que l'homme ne peut pas faire et nous marchons en nouveauté de vie. Et ça, c'est important de pouvoir bien le comprendre. Paul, au travers de tout son ministère, met en lumière quelque chose. Il met en lumière cette marche avec Christ. Le message de Paul, à travers ses épîtres, montre que nous croyons en un message, et donc ça a une implication pour notre vie. C'est ce que Paul démontre tout au long de ses épîtres. Si nous ne savons pas que nous sommes pécheurs, alors on n'a pas conscience d'avoir besoin d'un sauveur. Si on croit qu'on peut se sauver nous-mêmes, alors là aussi on n'a pas besoin d'un sauveur. Mais quand on réalise enfin l'infinie sainteté de Dieu, alors on réalise que nos standards humains de perfection ne sont qu'imperfection aux yeux de Dieu. Et nous avons besoin d'une solution qui vient de Dieu et non des hommes. Alors là, le besoin d'un sauveur prend tout son sens. C'est pourquoi Paul nous dit que la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. Mais l'esprit que nous recevons à notre conversion, lui, communique la vie. Cependant, on voit aussi cette merveilleuse ingéniosité de Dieu qui a distillé tout au long de l'Ancien Testament un avant-goût de l'avenir glorieux de ceux qui appartiennent au Seigneur. Et cet apéritif révèle toute la saveur du plat principal. Au verset 7 et 8, Paul dit « Le ministère de Moïse, au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face, à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore ? Je ne sais pas pour vous, mais bon nombre de fois, en lisant l'Ancien Testament, je me suis dit que ça devait être tellement puissant ce que Moïse a vécu. Vous imaginez ? Son visage étincelle au point de devoir porter un voile dans la présence du peuple. Eh bien, Paul nous livre là un moment absolument merveilleux, quand on réalise ce que nous sommes appelés à vivre dans cette nouvelle alliance. Verset 10, on peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat, quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car ce qui est passager a été touché par la gloire. Combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement ? Waouh ! Moi qui croyais que cette gloire dont rayonnait le visage de Moïse était extraordinaire dans le premier sens du terme, alors qu'en fait, c'est un avant-goût de ce que nous vivons avec le Saint-Esprit en nous. Tous les livres du Nouveau Testament, à l'exception possible de 2 et 3 Jean, contiennent des références et des allusions directes à l'Ancien Testament. Il y a une continuité, il y a un fil rouge. Mais ici, Paul établit un contraste entre l'ancienne alliance, celle du Sinaï, et la nouvelle alliance, écrite non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. En fait, il n'y a pas de rupture entre les alliances. Paul nous le rappelle en Galates, chapitre 3. Mais il y a une continuité. Mais l'alliance avec Dieu atteint sa pleine maturité dans le cadre de la nouvelle alliance. L'alliance du Sinaï est venue en termes de mort, de condamnation. Sa gloire a été passagère. Les 10 commandements communiquaient un idéal d'obéissance et avaient pour but de montrer et de condamner le péché. Mais en tant que simple lettre écrite, ces commandements n'avaient pas la capacité en eux-mêmes de produire la justice. L'ancienne alliance ne pouvait donc pas, par définition, être une réalité permanente. La nouvelle alliance, elle, met en avant l'œuvre de Jésus que Christ réalise à la croix. Et c'est le don de l'Esprit qui reproduit chez les croyants la même gloire qui reluit sur le visage du Messie. L'ancienne alliance se caractérisait par une gloire qui se limitait au médiateur. Il n'y a que Moïse qui brillait. Et c'était aussi seulement Moïse qui avait accès à Dieu. Il fallait passer par ce médiateur pour avoir accès à Dieu. Alors que la nouvelle alliance, elle se caractérise par une gloire que nous sommes tous appelés à vivre et un accès illimité pour tous auprès du Père. Je ne sais pas si on réalise pleinement cela. Tout chrétien authentique, né de nouveau, est transformé de gloire en gloire et a un accès direct à Dieu. Le voile du temple est déchiré. Il n'y a pas besoin de prêtre, pas besoin de pasteur, même pas besoin d'ancien ou d'un quelconque intermédiaire pour accéder à Dieu. Car nous avons en nous l'Esprit que Jésus lui-même nous envoie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Si nous sommes passés par Jésus qui est la porte, alors on a le pass VIP, l'accès total à Dieu. Et ça, chers amis, c'est une nouvelle absolument merveilleuse. On arrive à notre deuxième partie. Une nouvelle alliance qui nous transforme. Cette nouvelle alliance nous transforme donc. Ça transforme notre rapport à Dieu. Ça change littéralement ce cadre dans cette nouvelle alliance. J'aimerais que l'on comprenne mieux les versets 15 à 17. Paul nous dit Lorsque les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Tout ça, c'est Paul qui le dit. Donc, je ne sais pas si on réalise bien, je ne sais pas si on a bien lu ou on a bien compris. Lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Ok. Bon, bah, très bien. On va reprendre ce texte. On va reprendre le verset 16, qui est d'ailleurs tiré d'Exode, chapitre 34, verset 34, avec cette information. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Ok. On relit. Lorsque Moïse se tournait vers l'Esprit, il ôtait le voile. Et là, on comprend mieux ce texte. Lorsque Moïse s'adresse à Dieu en faisant appel à l'Esprit, il avait une pleine liberté d'accès au Père. Il était en mesure, enfin, de comprendre le Père. Cette notion du voile, qui est d'ailleurs clairement expliquée au verset 14, rend impossible la compréhension de ce que Dieu a à nous dire. Si on a un voile, on ne peut pas comprendre Dieu. Et ce voile est ôté dans la communion à Christ, dans le cadre de cette nouvelle alliance. Et c'est capital. Je pourrais avoir un plein accès à un livre écrit dans une langue inconnue que je ne comprendrai pas mieux ce que ce livre a à me dire. Par contre, si j'ai un accès complet à Dieu et que je comprends ce que Dieu veut me dire, alors là, ça change les choses. Et que faisons-nous donc de cette compréhension de Dieu? Cette compréhension qu'il est enfin possible d'avoir dans cette nouvelle alliance? Eh bien, la réponse, elle est dans le texte. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Je vous propose une version un peu différente de ce texte, une version qui est tirée de paroles vivantes. C'est très intéressant de pouvoir aller chercher dans différentes versions pour essayer de voir si cela affine notre compréhension du texte. Je propose donc cette lecture donc, qu'on trouve dans Paroles vivantes. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour, et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement la nôtre, il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. Je trouve que cette traduction, en tout cas moi, m'a éclairé sur la compréhension de ce passage. Paul nous rappelle un fondement de ce qui s'opère en nous par l'Esprit de Dieu. Nous changeons. Nous sommes transformés. C'est une action qui entraîne une réaction. On contemple la gloire du Seigneur. On s'approche de lui. On s'immerge dans sa parole, dans sa présence, dans la communion avec Dieu. Et ainsi, on est transformé de jour en jour pour refléter une image toujours plus fidèle du Seigneur. Ce changement qui s'opère, en fait, il est inévitable. Si on plonge pleinement dans la communion avec Dieu, si on cherche vraiment à contempler la gloire du Seigneur en lisant sa parole, en la méditant, en priant, alors ce texte nous affirme que si nous sommes chrétiens, l'Esprit de Dieu va nous transformer. Et là, on revient à ce point qu'on a évoqué au début de cette prédication. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si on produit de mauvais fruits, si aucun changement ne s'opère, il y a des questions à se poser. Si le temps passe, nous devenons aigris, égoïstes, colériques, ou que sais-je encore? Est-ce qu'on pense que c'est là le développement normal dont nous parle ce texte? Les fruits que produisaient les détracteurs de Paul sont la discorde, le trouble, les problèmes dans l'Église. Est-ce que ça, c'est conforme à la parole de Dieu? Jésus nous dit en Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde ». Est-ce que cette lumière se voit ou est-ce qu'elle est masquée? Est-ce qu'elle est couverte? On ne peut pas lire ce texte, on ne peut pas lire la Bible dans sa globalité et se dire « c'est bon, j'ai fait ma BA, j'ai fait ce que j'avais à faire, je continue comme si de rien n'était ». Là, il y a un problème. Au contraire, nous devons demander à Dieu de nous éclairer lorsque nous plongeons dans sa parole afin qu'il nous révèle sa gloire et que nous puissions, par son esprit en nous, comprendre ce qu'il veut nous communiquer. Se dire que chaque jour, Dieu veut nous communiquer quelque chose par sa parole, c'est quelque chose de fou. Et c'est d'une infinie richesse. On doit chercher à contempler la gloire de Dieu, qui se révèle entre autres dans sa parole, pour voir ce changement clairement, distinctement s'opérer en nous. Tant qu'on n'est pas dans nos corps régénérés, alors on n'a pas achevé la course. Parfois, les passages de vie peuvent nous sembler plus difficiles, mais si nous trouvons notre réconfort en Christ, alors là encore, alors que nous pouvons être amenés à penser que peut-être nous sommes un arbre mort, peut-être qu'on va penser qu'on ne peut plus rien produire, eh bien là encore, Dieu peut produire de bons fruits, parce que c'est Dieu qui produit. Et ce que nous faisons, ce que nous vivons, nous ne le vivons pas pour notre gloire, ou pour la gloire de notre Église, même pas pour la gloire ou la réputation des chrétiens en général. Nous le faisons pour refléter la gloire de Dieu. Il y a cette image du phare. Dans les anciens phares maritimes, c'est plus le cas aujourd'hui, maintenant ils ont des lentilles spéciales qui permettent d'optimiser la lumière, mais dans les anciens phares maritimes, il y avait un miroir qui reflétait la source lumineuse. Nous sommes nous aussi appelés à refléter la gloire de Christ. Si on enlève la source lumineuse, alors on ne va rien refléter du tout. Il faut que nous nous replacions sans cesse face à la source lumineuse, en contemplant la gloire de Dieu, pour que ce que nous reflétons puisse faire de nous des lumières dans les ténèbres. Je ne sais pas si on voit bien sur cette image, mais je vais m'écarter du micro, on a une petite lumière ici. Et tout autour, c'est le miroir. Si on enlève la lumière, il n'y a plus rien qui éclaire. Si on enlève la lumière de devant nous, si on enlève le Seigneur, si on enlève la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on reflète ? Rien du tout. Tout ceci, en fait, se fait en étroite collaboration, en étroite communion avec Dieu. Paul dit au verset 5, en parlant de son ministère, « Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur de cette tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Tout ce que nous produisons de bon dans notre ministère, notre témoignage ou notre service ne peut pas et ne doit pas nous rendre orgueilleux. Car sans Dieu, nous n'aurions pas la capacité de le faire. » Un peu comme un marteau entre les mains d'un forgeron, on doit réaliser que celui qui a le mérite, ce n'est pas l'outil, c'est l'artisan. Je vais donc conclure. On voit Paul qui défend ici admirablement bien son ministère. Car d'une part, il prodigue encore une fois un enseignement qui a une portée pour nous aujourd'hui. Un enseignement qui est structurant dans le cadre de la révélation d'une nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est bien la preuve d'ailleurs qu'il était inspiré par Dieu. Et d'autre part, il arrive à démontrer que ce qui le rend légitime, c'est Dieu lui-même, et les fruits de son ministère, que sont les Corinthiens et l'Église de Corinthe. Il aurait pu décider de laisser tomber. 4 lettres pour essayer de convaincre une Église de se remettre sur les rails pourrait sembler beaucoup d'efforts. Il aurait pu jeter l'éponge. Mais son amour pour l'Église de Dieu à Corinthe, son amour pour la parole et pour la vérité, le pousse à persévérer. Et en faisant ça, il nous rappelle que nous sommes appelés à bénéficier pleinement de cette nouvelle alliance conclue avec Dieu et scellée à la croix par Jésus-Christ. Lorsque Jésus dit « Tout est accompli, tétélestai », cela signifie plus que simplement « Tout est accompli ». C'est le même mot que Dieu dit quand il achève la création. Tétélestai. Tout est accompli entièrement et parfaitement. Et ça, ça a été le cas à la croix. À la croix, tout a été accompli parfaitement et entièrement. Il n'y a rien à rajouter. Le plan du salut est complet. Cette nouvelle alliance nous permet d'avoir en Jésus-Christ la solution à notre péché qui a été révélé par la loi. Cette nouvelle alliance nous permet d'être transformés de jour en jour pour être conformes à l'image de Christ et pour refléter la gloire de Dieu. Nous pouvons ainsi faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et ceci pour qu'à lui seul soit la gloire, une gloire éternelle, au siècle des siècles. Amen. Si tu m'autorises, Nasser, je vais juste prendre quelques instants supplémentaires. Peut-être on peut laisser une minute ou deux pour réfléchir à tout ça. Et vous savez, dans le cadre des présentations dans notre Église, on présente des personnes qui sont avec nous depuis un certain temps. Nous avons eu déjà l'occasion de présenter quelques-uns qui sont venus, à qui on a posé quelques questions. Donc on avait déjà présenté Elisabeth, Nathanaël et Geoffrey. Et je vais demander à Ben et Jill, je vois que vous êtes là. Je ne vous ai pas prévenu avant, désolé, c'est la petite surprise. Si vous voulez bien venir tous les deux. Et puis, je vais juste vous poser les mêmes 3 questions que j'ai posées à nos frères et sœurs la dernière fois. Donc je vous redonne les trois questions, je les rappellerai si nécessaire. On vous demande votre nom et prénom, de quelle église vous venez et ce que vous faites à Lyon. Voilà.
Donc, on est Ben et Gilles et on vient de Louisville, Kentucky et actuellement, nos amis qui habitent à Louisville, Daniel et Andrea, ils sont là aujourd'hui aussi. Donc, on est à Louisville, à Lyon. Donc, moi et Gilles, nous sommes profs d'anglais et aussi nous travaillons avec les musulmans aussi. Nous partageons la bonne nouvelle avec les musulmans à Lyon. Donc,
merci beaucoup.
Oui.
Merci Ben et Gilles. Donc Ben et Gilles sont avec nous depuis presque un an et demi maintenant, si je ne me trompe pas. Je vais prier pour ce que l'on vient de dire et aussi pour Ben et Gilles. Seigneur, nous te prions vraiment de pouvoir contempler ta gloire. Nous te demandons de nous transformer pour que nous puissions refléter cette gloire dans le monde. Nous voulons aussi te prier pour le ministère de Ben et Gilles parmi les musulmans, que tu puisses là aussi les accompagner, bénir leur ministère et que tu puisses produire de bons fruits. Que ce soit toi qui puisses agir au travers d'eux afin que ta gloire soit révélée parmi ces personnes-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre attention.
Merci Jérémy pour le message. Juste pour conclure...